sont venus petit à petit comme public. Puis ils se sont dit, mais moi aussi je peux le faire.
C'est une espèce de salle d'attente d'un hôpital psychiatrique où en plus tu peux assister gratuitement à la consultation des autres.
Il n'y a pas besoin de flou ou de scansion particulière, donc ça décomplexe l'écriture et les mots, et ça peut toucher différentes générations. Il n'y a pas besoin d'une culture commune, quoi.
C'est des oufs qui s'expriment et qui prennent tous les moyens pour s'exprimer dans tous les lieux possibles.
En 2005, 2006, personne ne connaissait ça. Et quand Grand Corps Malade a sorti son disque, c'est devenu un phénomène en 4 jours.
Une scène, un public, des poètes, des textes a cappella, pas de décor, de musique ou d'accessoires. 5 spectateurs jugent les prestations. Voici les principaux ingrédients d'une soirée slam.
Grâce à ta parole, on peut te situer, savoir qui tu es. Dans les tribunaux, par ta parole, on peut savoir si tu as, tu es.
Je veux te fusain, je veux t'aquarelle, je veux te rodin, je veux te ritournelle. Je veux chanson d'enfant dans le creux des prunelles. J'entends comptine pour grand ton sourire arc-en-ciel.
Ce que je prenais pour l'amour n'était qu'un rapport dominé, dominant. À partir de maintenant, on verra deux dos. Miné, j'ai plus rien à donner, je suis pas de bandeau, Mino.
Performance orale, tribune de libre expression. Les définitions du slam de poésie sont nombreuses. Mais le mouvement reste méconnu du grand public. Les médias alimentent les confusions. Ce reportage en 5 feuilletons retrace les origines du phénomène et son apparition en Europe, ses différentes pratiques en France et en Belgique, et sa médiatisation. La dernière partie se consacre au phénomène Grand Corps Malade. Depuis ses débuts, l'artiste est considéré comme la référence du mouvement, alors qu'il n'en est rien. En route pour 5 feuilletons consacrés au slam de poésie. Chicago, juillet 86. Mark Smith est ouvrier en bâtiment. Il organise des tournois de poésie dans un bar. Une feuille tourne parmi les gens. Certains y inscrivent leur nom. Le maître de cérémonie les appelle tour à tour sur scène. Ils ont 3 minutes pour présenter un texte a cappella. 5 spectateurs, choisis au hasard dans le public, notent les prestations. Une nouvelle pratique est née. Elle se nomme slam de poésie. L'objectif de Mark Smith est de sortir la poésie des salons pour la proposer dans les bars, mais surtout l'offrir au peuple, lui permettre de l'utiliser et d'y réagir. Ces soirées se multiplient et les premiers tournois officiels s'organisent. Le slam s'impose mondialement. À côté des États-Unis et de l'Allemagne, la France est aujourd'hui le pays le plus développé dans le domaine. Retour historique dans le berceau du slam européen. Paris. Le slam prend rapidement ses quartiers dans la capitale française. C'est ici, dans les rues de Pigalle, que le mouvement apparaît. Au Club Club, un ancien bar de passe recyclé, en bar à événements. D'autres établissements suivent la tendance. C'est le cas du Divan du Monde. King Bobo y était animateur de scène slam.
Le slam, historiquement en France, a démarré plutôt dans le nord-est de Paris. Depuis 10 ans que je le vis, c'est plutôt de la poésie populaire. Pas populaire, pas populo, hein, bien écrit avec du vocabulaire, mais populaire. C'est-à-dire que je ne connais pas de scène de slam dans le 7e, dans le 8e arrondissement, dans le 16e arrondissement ou à Neuilly-sur-Seine. Mais j'en connais à Trappes, j'en connais à Mantes-la-Jolie, j'en connais à Cergy-Pontoise, j'en connais à Corbeil-Essonne. Et nous, on en anime dans le 18e, dans le 19e. En 2001, 2003, il y avait 4-5 scènes de slam à Paris, il y avait 25 slameurs. C'était entre 20 et 35 ans, en gros.
Ces rares slameurs se retrouvent régulièrement au Club Club, mais l'établissement ferme ses portes en 1998, date à laquelle un film américain médiatisera le phénomène « Slam » de Mark Levin. On y découvre l'ambiance des soirées slam aux États-Unis. Les premiers adeptes français mettent un mot sur leur discipline et un noyau dur se forme. Parmi eux, Houda. Avec Lior et Neobled, ils fondent le 129H, premier collectif de slameurs de France. Il se souvient de sa rencontre avec le slam.
Je me promenais sur le boulevard Ménilmontant, qui, paraît-il, est un peu le point G de l'histoire du slam à Paris, voire en France. Il y avait une petite scène slam qui avait lieu dans un bar qui s'appelait Luciole. Et c'était plus une petite scène avec trois... Parce qu'à la base, il y avait 3-4 poètes, personne dans le public, c'était plutôt un bar où les gens mangeaient, buvaient, et juste à côté, un peu comme des électrons libres, t'avais quelques slameurs. Et quand je suis revenu un an après, il y avait une petite estrade, il y avait un micro, il y avait un public, un peu plus de slameurs. Et je trouvais ça plus stimulant.
Des slameurs qui deviennent de plus en plus nombreux. À l'époque, des dizaines de bars accueillent leur mouvement. Ami Karim a vu son café habituel se transformer en scène slam. Et avant de devenir lui aussi un des piliers de la première vague de slameurs, il était plutôt contre ce développement. Une opposition qui se transforme rapidement en stimulation.
10 secondes, c'est tout. J'ai beau fouiller mon cerveau, ça part, c'est flou. J'entends déjà plus les pompiers, ça crie plus dehors. Les passants sont passés, c'est pas très grave, il n'est pas mort. 10 secondes, ils éteignent la lumière. Il y a du sang dans ma perf, mais je vois plus l'infirmière. En cas d'hémorragie, tu pourrais mourir. Il fait noir, c'est pas mon corps qui me fait souffrir. J'allais plus les soirs où il y avait slam, et puis un jour le mec qui animait, il m'a pris au mot, il m'a dit mais pourquoi tu rentres pas? Je lui ai dit parce que j'aime pas. Il m'a dit bah pourquoi tu leur dis pas que t'aimes pas? Et donc je me suis posé, j'ai écrit un texte où je leur disais que j'aimais pas ce qu'ils faisaient. Et ce soir-là, je me suis pas fait des potes. Mais par contre, dès que je suis sorti de scène, j'avais qu'une envie, c'était de repartir en écrire un et de revenir le faire le mois d'après. 10 secondes, entre lassitude et conscience. 10 secondes et dans la bouche, comme un arrière-goût de seconde chance. 10 secondes, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? D'avoir 10 secondes vu son âme, se poser des questions. Quand tu arrives au bout, tu dis ça y est, j'ai fini mon texte, mais tu le relis et que ça glisse, et que ça rime, et que c'est beau, tu vois. Déjà, la première étape, elle est gagnée, tu vois. Parce que si tu fais un texte et que tu l'aimes pas, il n'y a pas d'intérêt. Et puis la deuxième, c'est quand tu vas le faire sur scène et qu'il est nouveau. Tu l'as jamais fait encore, tu l'as pas testé, tu sais pas. Et que tu as pu en faire avant qu'il fonctionnait, tu peux jamais savoir si le nouveau, ça va le faire, si les gens vont aimer ou pas. Et que tu le fais et que devant toi, les gens ils sourient. Pas besoin qu'ils applaudissent comme des ouf, pas besoin, tu vois, mais juste ils sourient. Et là, tu sais que c'est bon, quoi.
Le slam attire de plus en plus d'adeptes, dans la capitale française, mais pas seulement. L'ensemble de l'Hexagone s'active, les soirées slam se multiplient dans les bars, des organismes et fédérations se mettent en place, des collectifs fleurissent, mais c'est une scène qui retiendra tout particulièrement l'attention.
Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire ou jouer aux dames, certains vendredis soirs, il y a même des soirées slam.
À l'époque, le Café culturel de Saint-Denis est le lieu de référence en France. C'est ici que se regroupent les slameurs du noyau dur. Sancho était le petit jeune de la bande.
Je suis le type qui fait un petit pas, le type qui fait sans pétage, je suis le type qui t'attaque, le type qui se tape, le type qui se tâte et qui t'épate, un type.
Il y a eu la scène quand même du Café culturel qui pour moi était vraiment c'était un vrai symbole de cette époque. C'était un peu le... comme les Coluches et tout ça, mais le café de la gare, machin, voilà, à un moment, on a eu le café culturel.
Saint-Denis, impasse Chanu. C'est ici que se déroulaient ces soirées. Christina Lopez était aussi présente à l'époque, mais de l'autre côté de la scène. Coordinatrice du lieu, elle a vu émerger le phénomène et ceux qui deviendront les symboles de toute une génération.
Pendant près de 10 ans, on a fait en fait, le Café culturel avait la CSA Scène Slam tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. C'était essentiellement animé par Nada au départ, ensuite Grand Corps Malade, qui ne s'appelait pas encore Grand Corps Malade pratiquement à l'époque. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses faites de toute façon au café à l'époque. Un des premiers tournois slam dans les slameurs, c'était un petit noyau dur. C'était pas aussi répandu qu'au départ, suite après à la médiatisation du premier album et du mouvement de Grand Corps Malade.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ?
Mars 2006, une voix grave retentit sur les ondes. Les voyages en train est le titre qui marque le début du mouvement Grand Corps Malade. Fabien Marceau, de son vrai nom, sort Midi 20, son premier album. Loin du café culturel qui a vu naître sa carrière, il devient rapidement la référence du slam à travers le monde francophone. La chanson est un succès. Le phénomène Grand Corps Malade est lancé, les médias s'en emparent. Fabien Marceau permet à la discipline de se faire connaître, mais son succès provoque des confusions. Pour le grand public, le slam devient un courant musical, un texte parlé sur une mélodie. Une idée que les médias alimentent régulièrement. Cette question fera l'objet du dernier feuilleton de ce reportage.
Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois tu prendras le bus.
Loin des bars de Chicago et des premiers tournois nationaux, le slam évolue. En Europe, les mutations sont nombreuses. Le mouvement reste ce tournoi de poésie de performance a cappella dans les bars où le public est juge. Mais il perd peu à peu sa notion de compétition au profit d'activités parallèles. Scènes ouvertes, ateliers d'écriture. La suite dans le prochain feuilleton de ce reportage.